RFI, grand reportage.
Alexis Guilleux.
Bonjour à tous. En France, la PSQ a vu le jour le mois dernier. PSQ pour police de sécurité au quotidien. Une nouvelle réforme pour la police française alors que les relations avec la population sont parfois tendues. Des crispations, des violences. Tout le monde s'accorde sur la nécessité d'un changement, mais pas sur sa nature ni sur l'analyse de la situation. Selon plusieurs sondages, une grande partie des Français se disent satisfaits de leur police. Mais en cas de tension, les deux camps se rejettent la responsabilité. Agression contre des policiers, violence policière, une spirale sans fin. Grand reportage de Christine Siebert.
Mes collègues officiers et parfois même commissaires, je tiens d'abord à vous remercier.
Manifestation de policiers suite à l'agression d'une de leurs collègues en banlieue parisienne dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Manifestation de victimes de violences policières et leurs proches. Tous les ans, ils commémorent la mort de Lamine Dieng, ce jeune Français d'origine sénégalaise, décédé en 2007 suite à une interpellation par des policiers dans le nord de Paris. Des deux côtés, ils comptent leurs morts, leurs blessés. 16 policiers morts dans l'exercice de leurs fonctions en 2016, selon l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Et côté violence policière, un décès par mois lors d'opérations des forces de l'ordre, estime l'ONG chrétienne ACAT.
On avance encore un petit peu, on laisse bien la bande apparente.
Les habitants du quartier des Amandiers, le quartier de Lamine, subissent des contrôles abusifs de la police, dit une vieille dame.
C'est tout le temps comme ça dans ces quartiers-là. On a installé une peur parce que la police, comme elle fait des violences, elle n'est jamais punie. Les gens, ils ont peur, et c'est vrai. On conseille aux enfants de ne pas sortir.
Là, on va dans nos quartiers, c'est ce qu'on appelle.
Nos quartiers.
Nos quartiers, c'est notre secteur. On n'est pas que sur Strasbourg. On est vraiment sur un secteur bien déterminé et bien précis.
D'accord.
Donc le Méno, le Neuf.
À 500 km de là, à Strasbourg, une équipe de policiers part en patrouille. Nous sommes dans une camionnette de la BST, la brigade spécialisée de terrain, en compagnie de Joël Irion, chargé de communication de la police nationale dans le Bas-Rhin, et de trois autres policiers qui resteront anonymes. Descente dans une barre de logements sociaux. Cette cage d'escalier est un rendez-vous des trafiquants de drogue connus des policiers. Un homme d'un certain âge avance vers les policiers.
Bonsoir.
Il a un verre à la main, un joint dans l'autre.
Vous fumez quoi là par contre ?
Une roulette.
Une roulette quoi ? De sentir ? Il y a des herbes de Provence là-dedans ou quoi ?
Je sais pas, c'est une roulette, elle est habituée de fumer.
Et vous avez mis quoi dedans ?
J'ai mis du tabac, j'ai mélangé.
Avec quoi encore ?
Tabac de l'Allemagne.
Un canapé est installé sur une coursive extérieure.
Ils étaient là cet après-midi ?
Ah oui, ils étaient nombreux, ils étaient remplis. Mais là, aujourd'hui, comme ils ont amené le canapé, ils étaient au moins une quinzaine, une vingtaine. Ils étaient remplis tout le long.
Canapé avec vue imprenable sur le quartier.
Donc voilà, ça fait partie des difficultés du métier, parce que là... Là, ils ont un point de vue sur toute la rue, sur toute la vue, donc impossible d'arriver discrètement. Donc on est au 10e étage d'une tour où manifestement il y a un petit point de deal avec un beau canapé qui sert au chouf pour surveiller l'arrivée des forces de l'ordre. On voit tout le quartier de haut, donc ça leur permet de se disperser dans les étages quand on arrive, quoi.
Il est redescendu Normandie vers le Canastel. Donc,
non, c'est pas grave, on va rester en embuscade là, dans les.
Ouais.
Lui, on a bien niqué sur elle là par contre.
Le fumeur de cannabis s'en sort avec un avertissement. Et de façon générale, ces policiers disent être indulgents quand ils le jugent adéquat et toujours poli et mesuré.
Très souvent aussi, si un contrôle de police se passe mal.
Joël Irion.
Ce n'est pas. Du fait ni de la police ni de la personne contrôlée, mais c'est des personnes extérieures qui viennent s'immiscer au contrôle, qui font déstabiliser la situation. Pour mettre un frein à l'intervention de police, c'est une manière à eux de marquer leur territoire.
Ils disent ne jamais interpeller quelqu'un sans raison évidente et ne jamais contrôler quelqu'un pour sa couleur de peau ou son apparence maghrébine.
Je vais juste vous faire constater par vous-même. On va passer à un endroit où il y a de la délinquance, il y a du point de deal, il y a des perturbateurs, il y a des nuisances sonores dont les riverains se plaignent. ce genre de groupe peuvent se faire contrôler une fois, deux fois, trois fois dans une journée. C'est normal. Ils sont toujours au même endroit, c'est eux qui créent les nuisances. Voilà, quand vous avez deux ou trois personnes sur cinq qui sont d'origine maghrébine et les deux autres sont d'origine peut-être africaine, sont noirs, eh ben forcément quand on va les contrôler deux fois, on aura contrôlé deux fois des jeunes maghrébins et deux fois des jeunes blacks, on va dire. C'est pas de notre faute.
Pour Joël Hirion, le contrôle au faciès est un fantasme.
Ça fait rire. Après, je peux aisément entendre que se faire contrôler plusieurs fois, ça peut être gênant, mais celui ou celle qui n'a rien à se reprocher, ben, il présente sa pièce d'identité, point, voilà, c'est fini. Un contrôle de police, ça peut durer une minute, point.
Mais selon une étude du Défenseur des droits, les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes ont une probabilité 20 fois plus élevée que les autres d'être contrôlés. Nous sommes à nouveau à Paris. Christian Moina est chercheur au CNRS et directeur du CESTIP, du Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales.
Des chercheurs ont pu démontrer dans des lieux où justement se côtoient des gens qui font partie des minorités visibles, comme on dit improprement, et d'autres personnes. Et finalement, on s'aperçoit que ces contrôles au faciès existent, qu'on a plus de risques d'être contrôlé quand on a une couleur de peau un peu plus foncée que quand on a la peau claire.
Rue des Amandiers, famille et amis de Lamine Dieng se sont rassemblés pour se souvenir. Un travailleur social raconte.
Lui fréquentait l'antenne jeune qui avait rue des Amandiers. Un gars athlétique, hyper gentil, toujours heureux, enfin bon bref. Et le directeur d'antenne de cette antenne-là, quand il a appris la mort de Lamine, il s'est complètement effondré. Il m'a appelé, il m'a dit « Olivier, Lamine est mort, ça l'a cassé, quoi. Ça l'a complètement cassé. » Évidemment, il n'a pas cru une seconde, mais pas une seconde à la version officielle. Et puis ça nous a vraiment tous cassé, quoi. Et voilà, quoi, 10 ans plus tard, ben, on se rend compte qu'il n'y a pas de justice. Il n'y a toujours pas de justice.
Ramata Dieng, la sœur de Lamine, s'adresse aux manifestants et revient sur 10 ans de procédure judiciaire.
Et lorsque le juge prononce un non-lieu en 2014, sa réponse est qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour ouvrir un procès, pour mettre en examen les policiers, celui qui a étranglé Lamine avec sa matraque, celui qui s'est agenouillé sur son dos, celui qui a pris appui de tout son poids pour aller tirer les pieds, celui qui a replié les pieds également jusqu'aux fessiers et s'est agenouillé dessus, et celui qui s'est agenouillé sur sa tête et a causé un œdème et un engagement cérébelleux. Pour le magistrat, il n'y a pas matière à mettre tous ces policiers en examen, il n'y a pas matière à ouvrir un procès, il ne s'est rien passé. Alors que toutes les preuves sont là, les témoignages sont là, mais ça n'intéresse pas les magistrats. Les magistrats ont une seule volonté, celle de protéger les criminels et de les placer au-dessus de la loi. Donc nous sommes déterminés plus que jamais, parce que la liste des victimes continue à s'allonger et qu'il faut y mettre un terme.
Les policiers qui avaient interpellé Lamine Dieng ont été blanchis par les juges. Ramata Dieng me confie qu'ils n'ont reçu aucune sanction, au contraire.
Ils sont promus en grade, c'est-à-dire ils ont des avancements de carrière. Eh bien, c'est pour cela que nous considérons que c'est une récompense que l'État donne à ces policiers qui ont tué. Alors qu'on n'est toujours pas dans le cadre de la légitime défense. Lamine n'était pas armé, il était seul, il ne menaçait la vie de personne et il ne commettait aucun délit au moment de son interpellation. Ce qu'on demande également, c'est minimum, que ces policiers soient révoqués, qu'ils soient renvoyés des forces de l'ordre. Ça, c'est un moyen de les empêcher de nuire à nouveau. Mais malheureusement, voilà, demain, n'importe qui peut être violenté par les policiers qui ont pris la vie de Lamine.
À Strasbourg, la patrouille suit son cours. Un colis suspect vient d'être signalé. Il s'avère que c'est une valise vide. Comment est-il possible qu'un jeune homme inoffensif meure lors d'une interpellation policière ? Joël Hirion.
J'ai pas la réponse à cette question. Si j'avais été celui qui a plaqué ce jeune qui malheureusement a perdu la vie, j'aurais, oui, peut-être une explication à fournir. Peut-être pas. C'est difficile de répondre à ce genre de questions quand il n'y a pas été. Quelqu'un qui se comporte délibérément mal dans l'exercice de ses fonctions, ces gens-là n'ont rien à faire dans la police. Voilà,
ouais,
point.
Ouais, ouais.
S'ils salissent l'image de la police nationale avec des comportements qui ne sont pas dignes d'un policier, qui ne sont pas dignes d'un être humain normalement constitué, ces gens-là doivent être écartés et de la police nationale et de la société. Point.
Visite d'une cave d'immeuble. C'est là que le trafic se fait. Le prix des drogues est inscrit sur les murs.
Donc vous avez la carte comme au restaurant. Alors pour l'héroïne, donc les 0,2 c'est 10 euros, 0,4 20 euros, donc on parle de bonbonne d'héroïne, 1 gramme à 40 euros, et ainsi de suite. Vous avez les 5 grammes à 200 euros, c'est tarif dégressif. Là c'est pour le shit.
Cannabis.
Donc voilà, cannabis, les barrettes à 3 grammes, 20 euros, les demi-barrettes à 10 euros, les 10 grammes à 60.
Sur les murs, il y a aussi des insultes envers ces policiers de la BST, la brigade spécialisée de terrain.
Nique vos mères, la BST. Voilà, on ne peut pas être plus, plus précis que message. Voilà.
Qu'est-ce que ça fait quand on lit ça?
Franchement, ni chaud ni froid. C'est de la bêtise, c'est tout. Hein. Enfin, quelque part, je me dis que si on apparaît sous cette forme, c'est qu'on doit bien les faire chier quand même. Que... Voilà.
Ces policiers sont habitués aux insultes. Certains ont travaillé en banlieue parisienne où les voitures de patrouille sont accueillies par des invectives.
C'est sûr qu'il y a une certaine frustration, mais après, si on commence à interpeller tous ceux qui nous insultent, on laisse de côté du coup l'autre délinquance de produits stupéfiants, de raquettes, de vols. On fait plus rien en fait. Si on fait que de l'outrage, bon, on fait plus rien. Donc on est bien obligé de passer à côté et puis se concentrer sur la véritable délinquance et pas sur les jeunes qui nous insultent. Voilà, c'est bien.
Plaque-le contre le mur. Tu vois, essaie de le menotter, tu vois, un petit peu violemment.
D'accord.
Enfin, doucement violemment. Faussement violemment.
Jeu de rôle lors d'une journée de formation organisée par des collectifs de victimes de violences policières à Pantin, en banlieue parisienne.
Monsieur, bonjour. J'aimerais que vous me présentiez vos papiers d'identité. Elle a vous cette moto ?
Quelle
D'accord,
moto ?
Donc vous mettez sur le côté. Présentez-moi vos papiers.
Attendez.
Plus rapidement que ça. Présentez-moi vos papiers.
Ici, on s'entraîne pour des interpellations effectuées par des policiers qui seraient très loin de l'impassibilité des agents strasbourgeois.
Allez, tu t'installes là et tu te tais. Et tu bouges pas. Hein.
Garder son calme et pour ceux qui seraient témoins d'une interpellation, filmer la scène pour empêcher une éventuelle bavure policière.
Vous arrêtez de filmer, monsieur. Vous arrêtez de filmer.
Voici quelques conseils dispensés. Ensuite, les prises de parole s'enchaînent. Parole de victime.
Moi, je m'appelle Warren Lopez, j'habite à Elancourt et je suis étudiant dans le commerce en CFA. J'ai été victime d'une bavure policière parce que je faisais du scooter dans mon quartier. J'ai présenté les papiers du véhicule, j'ai dit « il se passe quoi ?». Il a rien voulu savoir, il m'a balayé et puis arrivé au sol, ils m'ont frappé.
Parole d'avocat, les policiers sont souvent blanchis par les juges, souligne maître Agathe Crenouillet.
Alors effectivement, il y a toujours cet esprit de connivence police-justice parce qu'effectivement, les policiers travaillent aussi au service de la justice. Quand un magistrat va mener une enquête, il va demander aux policiers de mener cette enquête. Donc on a des policiers et des juges qui ont l'habitude de travailler ensemble. C'est toujours délicat, effectivement, quand on est dans un procès où un policier est jugé et qu'on se retrouve face à un magistrat qui a l'habitude de travailler avec ce policier. Donc on a affaire souvent à ce typique parole contre parole et malheureusement même si la parole de l'un vaut la parole de l'autre, la parole d'un policier garde aujourd'hui toujours plus de poids et il va falloir que les magistrats entendent qu'il y a un problème d'impunité, que parce que je m'appelle Mohamed ou parce que voilà je vis dans tel quartier, c'est pas pour autant que je ne peux pas être considérée comme une victime de ces abus.
Le problème, ajoute Christian Moina, est que cette égalité de parole entre un policier et un simple citoyen n'est ni garantie ni prévu par la justice pénale.
D'un point de vue légal, ça pose déjà un problème qui est que le policier est assermenté, le jeune ne l'est pas. Donc, même juridiquement, le policier, sa parole a plus de poids que celle de son interlocuteur qui n'est pas assermenté. Donc, la difficulté vient de là, parce que tout le fonctionnement de l'institution judiciaire dans le pénal est construit sur des procès-verbaux de police qui reposent sur la bonne foi et la parole du policier assermenté. C'est là où on a un problème structurel, qui est effectivement cette grande dépendance à la fois juridique et opérationnelle des magistrats vis-à-vis des policiers.
L'autre problème, selon Christian Moina, l'attitude corporatiste des policiers qui défendent naturellement des collègues mis en question.
Alors, il y a une première chose qui est qu'un policier ne dénonce que très rarement un autre policier. Il y a beaucoup de policiers qui sont très irrités de ce qui se passe dans les commissariats, mais on ne dénonce pas un collègue.
Ce corporatisme, Christian Tidjani affirme en savoir quelque chose. Son fils Geoffrey a perdu un œil suite à un tir de flashball et les policiers ont fait bloc autour de leurs collègues impliqués.
Geoffrey, un policier impliqué, 7 policiers complices. Qu'on fait défaut, on le sait qu'ils ont fait défaut. Ils ont fait des faux témoignages, en fait ils ont arrangé la vérité, ils se sont calés au procès verbal du policier. Tout le monde dit la même chose, que Geoffrey jetait des pierres.
Et c'est pas vrai.
Non, bah, la vidéo le permet de le dire. Donc c'est pour ça, moi qu'on ne me parle pas de gentil policier, il y a une corporation, ils sont solidaires, même s'il y avait un gentil policier, il serait viré de la police. D'ailleurs, ceux qui dénoncent ont tous été virés de la police.
La police, un groupe homogène. Franco Lolia est porte-parole de la brigade anti-nécrophobie.
Souvent, ces gens avec qui on débat dans la police vont dire « Oui, mais la police, il y a des gens de tout horizon, des Noirs, des Arabes, donc la police est aussi représentative de la société. » Mais que les gens soient Noirs, Arabes dans la police ou d'apparence, etc., ils obéissent à des ordres. La police est le bras armé d'un État. Ce bras armé nous réprime, nous humilie, nous tue, nous mutile et tout ce qui s'ensuit. Et cette police préserve l'ordre, on appelle ça les forces de l'ordre, mais de quel ordre? D'un ordre qui perpétue l'inégalité de classe et d'un ordre qui perpétue l'inégalité de race.
Mais Christian Mouana met en garde contre toute analyse schématique de situations complexes.
Une police aux ordres de l'État, je crois que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a un État qui a peur de sa police aussi, qui a peur des manifestations de policiers, qui a peur de policiers qui se mettraient en grève ou qui ne croiseraient les bras. Donc il faut savoir que la police a tendance à vouloir se constituer en groupe autonome aussi par rapport aux demandes de l'État. Il faut, je pense, arrêter de penser que l'État maîtrise totalement ce qui se passe dans les institutions policières parce que ce n'est pas le cas.
Ça veut toujours être sympa.
À Pantin, la journée de formation se termine. Amal Bentounzi a fondé le collectif Urgence, notre police assassine, après que son frère Amine, un délinquant en fuite, a été tué d'une balle dans le dos par un policier. Ce dernier a été condamné en appel, mais pour Amal Bentounzi, c'est une exception. L'impunité des policiers est en la règle. Et cela crée, selon elle, la haine dans les quartiers.
Je vous laisse imaginer un jeune qui a subi des violences au quotidien, la stigmatisation, la violence verbale, l'humiliation, et qui arrive à perdre un proche ou qui arrive à subir une violence policière et qui n'obtienne pas justice. On tire la sonnette d'alarme. Qu'aujourd'hui, il y a vraiment urgence. Parce que c'est des monstres en puissance qu'on est en train de créer. Et des deux côtés.
Alors, comment sortir de cette spirale de la violence, Christian Mouana?
Je dirais, qui a commencé c'est un peu puéril comme question. La question est comment on peut surmonter ça. Au lieu d'être dans le constat, les constats ils sont faits, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que les relations ça se passe mal. Alors la seule solution qu'on va trouver c'est plus d'autorité, plus de lois, etc. Et ça fait 15 ans qu'on est dans cette stratégie unique. Ça ne marche pas, donc il faut bien essayer de passer à autre chose. Et on sait que dans toute situation de conflit ou de tension, ce qui est important, c'est comment créer les conditions d'une pacification, d'une tranquillité retrouvée des deux côtés en rebâtissant des contacts entre les deux camps. Alors évidemment, ça se fait pas en 3 jours. On va pas remettre à pied du jour au lendemain des policiers à tourner dans tel et tel quartier. Ils ont peur, mais ça doit être un objectif à moyen terme.
Pour souhaiter un prompt rétablissement à nos collègues aussi cruellement blessés le 31 décembre à Champigny. Allez, une salve d'applaudissements. Prompt rétablissement, mes collègues.
Un grand merci à tous les participants. Agression contre des policiers, violence policière, une spirale sans fin. Un reportage de Christine Thibert, réalisation Pierre Chaffangeon.